Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Donc, il y avait un débat enflammé entre
ben oui,
Luc,
on
Nathalie
dit que la meilleure radio, c'est celle qui se fait à micro fermé. Mais je peux vous dire une chose, ouais. Que t'es en feu, mon cher
Luc. Ah oui, je suis en feu, je pète le feu. Bon, alors, commençons donc par, bien sûr, parler du budget de la Ville de Montréal. Encore des hausses de taxes, gros budget, 7 milliards de dollars. Des employés de plus l'année prochaine. C'est le fun, 400 personnes de plus.
Bon, fait que... Premièrement, je pense que la Ville a fait un choix, c'est celui de perpétuer un déséquilibre permanent. T'sais, ça fait 1000 fois que je couvre des budgets de la Ville de Montréal, soit comme élu, soit comme journaliste. Et à chaque fois, c'est « Ah ouais, on va augmenter ainsi, on va couper un petit peu là, on est obligé de mettre du nouveau personnel, on va le faire. » L'administration a décidé de continuer avec ce modus operandi-là, c'est un statu quo. Elle a choisi de pas trop couper, puis je suis très content qu'elle ne le fasse pas, parce qu'il faut voir où on a rajouté des ressources avant de dire la Ville s'en met derrière la cravate, il faut voir où on met les ressources. On peut imaginer une décision radicale. On aurait pu imaginer un budget alternatif totalement radical.
C'est quoi?
Ben, par exemple, on pourrait dire on coupe 15% puis on augmente les taxes de 5%, mais garantie d'augmentation 5% pendant 10 ans. Et en échange de quoi, on va couper beaucoup les dépenses. Fait que là, le citoyen, il se dit, OK, moi, je paye plus de taxes, mais c'est pas pour qu'il y ait plus de dépenses. On coupe en même temps les dépenses. Et là, dans les dépenses, attachez votre tuque, là. On pourrait, par exemple, dire, on coupe les bibliothèques, on privatise les piscines, on privatise les arénas, on coupe les directions entières, comme le développement économique, le développement durable. On coupe toutes les commissions de consultation, comme le Conseil des Montréalaises, la Maison des Régions, le Conseil Jeunesse. On ralentit la réfection des égouts, le plan de déploiement des pistes cyclables. On ralentit la mise en œuvre de l'usine d'ozonation, on met un moratoire sur l'achat d'autobus et surtout on met en place des nouveaux moyens comme les péages, on demande le droit de taxer la valeur ajoutée. Là, tu sors la ville de la marde. Là, tu sors comme faut une fois pour toutes de la marde. Et pour les prochaines années, à tout jamais, tu as un nouveau socle économique qui fait que la ville, elle va se reproduire, elle va être capable de faire ses opérations. Mmh. On n'a pas choisi ça. On a dit, on va augmenter au maximum qu'on peut. Puis, on rajoute des ressources. Le rajout de ressources, là, les gens disent, ben, pourquoi tu rajoutes des ressources? Mais avez-vous vu les ressources qu'on rajoute?
T'sais, ouais, mais il y a des policiers dans
par
ça.
Par exemple, cybersécurité du réseau d'eau de Montréal. Là.
Ah ouais, mais ça...
Ben, que quelqu'un me lève la main en me disant, non, c'est pas une bonne idée.
Ouais. Ben non, c'est ça, exactement. Mais il y a des choix qu'on fait aussi. Il faut dire que dans ces ressources-là, il y en a qui sont payés par Québec, là.
Oui, ça aussi. Ouais.
Par le biais de subventions pour la sécurité
mais,
publique.
Mais c'est Luc, si Projet Montréal faisait ce que tu as dit de faire, oublie ça, Projet Montréal...
Plus,
c'est ça, Projet Montréal ne serait plus ce qu'elle est. Parce que ça ne correspond pas du tout tes solutions à l'ADN de Projet Montréal. Mais au-delà de ça, le dépôt d'un budget pour une ville, surtout de la taille de Montréal, on le sait, c'est toujours un événement. Et cette fois-ci, c'est un événement qui était très, très attendu. La mairesse, là, sur le plan logistique, est entourée de 7 personnes. Le contexte dans lequel l'annonce a été faite, les journalistes à la colline parlementaire, là, c'était solennel là, comme moment. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le sourire Colgate qu'arborait la mairesse en entrant dans la salle de conférence de presse. Tu souris, elle te sourit.
Alors qu'elle va annoncer des mauvaises nouvelles
mais
à tout
oui,
le monde.
Oui, mais je me disais, je sais qu'elle aime sourire, la mairesse. Je sais, elle a un très beau sourire d'ailleurs. Mais ce n'est pas le moment
c'est
de...
C'est une frondeuse, Valérie. C'est une frondeuse.
Non, mais
c'est pour ça que je souris. C'est elle, ça. C'est elle. Elle sait qu'elle s'en va annoncer une mauvaise nouvelle ou elle sait qu'elle a un ennemi dans la salle ou je sais pas quoi. Elle arrive avec le gros sourire. Elle est de même. Mais c'est correct. C'est pas un trait de personnalité à dénoncer.
Non, mais c'est parce que je trouvais ça un peu inadéquat, inapproprié. Okay. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Je dis pas qu'il faut pas sourire, au contraire. Mais il y a des moments où tu peux avoir le sourire un peu plus facile que d'autres. Mais au-delà de ça, la mairesse et d'autres membres du conseil de ville ont dit, ben, c'est un budget responsable, mais les citoyens montréalais n'ont pas la même définition de responsabilité que la ville. Moi, ce que j'entends, ce que je lis de la part des auditeurs qui nous écrivent, c'est consternation, colère, parce que, pour résumer, là, les gens disent, la ville nous demande, la mairesse nous demande de nous serrer la ceinture, mais il n'y a aucun effort, aucune démonstration de la part de notre ville que eux aussi se serrent la ceinture. Et une augmentation de taxes en moyenne de 4,6
pour les commerciaux.
4,9 pour le secteur résidentiel, c'est énorme. C'est énorme. En moyenne, 227 $ d'augmentation.
Oui.
En moyenne, mais c'est pour bien des gens, c'est au-dessus de ça. Chaque dollar d'augmentation de taxes, c'est toujours une augmentation de trop. Mais comme tu l'as dit, Luc, on est dans un contexte inflationniste. On comprend tout ça. La livre de beurre coûte de plus en plus cher. Mais si minimalement la Ville avait fait la démonstration en disant, écoutez, savez-vous quoi? C'est dur pour vous, mais on a décidé aussi, nous, de montrer l'exemple. Le devoir d'exemplarité en pareille circonstance aurait dû être élevé en priorité. Ça aurait dû être non négociable à part de la Ville, mais plutôt que faire ça, ce que la Ville fait, c'est expliquer, en fait, c'est justifier des choix qui, aux yeux du public, sont totalement injustifiables ou inadmissibles.
Oui, mais ce sont des choix qui sont injustifiables, inadmissibles le jour du budget. Dans deux semaines, des gens vont commencer à parler contre la saleté de la Ville de Montréal, contre la réduction de temps d'heure des piscines. Tu as des écoles qui vont se présenter. Comment ça se fait que la bibliothèque est fermée pendant la journée? Nous autres, on amènerait les enfants à la bibliothèque. Ça va sortir dans les journaux. Tu sais, les Montréalais sont extrêmement exigeants sur les services. Si tu dis correct, on va couper. Mais moi, je te dis, là, si quelqu'un veut mettre son affiche sur une pancarte, puis moi, je vais peut-être voter pour lui, puis je vais peut-être. En tout cas, je vais trouver courageux de dire, moi, je vais couper. Oui. Mettons, là, quelqu'un qui dirait oui, ça. Oui. Mais il n'y a pas de Montréalais qui veulent ça. C'est pas vrai. Les Montréalais, ils veulent ça pendant deux jours.
On veut le beurre puis l'argent du
beurre.
Ben
voilà.
Ouais, mais pas juste les Montréalais. Je pense que les Québécois, en général, sont comme ça. Mais tu as raison de souligner, Luc, mais n'empêche que là, on est dans une logique où, finalement, on est condamné à augmenter les comptes de taxes de manière assez importante.
Oui.
Et puis la mairesse a dit, dans le fond, moi, on a des missions de base à remplir, à rencontrer, puis on ne peut pas faillir à nos engagements. Sécurité, bon, informatique. Mais quand je voyais, par exemple, 12,7 millions pour les Bixi, je sais pas.
Ouais, mais tu sais, dans l'océan de 7 milliards, 12,7 millions.
Mais les symboles sont importants.
Oui.
Le 347 $ okay, du port des Juifs,
les symboles
Madame
sont importants.
Olivier,
on arrête de réparer les nids de poules. Je suis d'accord, Nathalie. Je suis d'accord, mais on va garder Bixi, par exemple.
Ben,
c'est ça, la gestion municipale. C'est qu'il y a quelqu'un qui tire d'un bord, quelqu'un d'autre tire d'un bord.
Mais non, excuse-moi, Luc, mais les nids de poules, c'est une question de sécurité du public. Là. Tu peux pas dire on va donner 12,7 millions pour
diminuer
les Bixi.
Le nombre de voitures dans rue aussi.
Puis dire on va pas réparer les nids de poules, c'est complètement
illogique.
Non, mais
attends, les Bixi, c'est une solution économique. Hein. Moi, c'est pas comme si jamais les Bixi, ça va conduire. Mais bon, toujours est-il que les Bixi, chaque Bixi enlève une auto de la rue. Là.
Oui, OK.
Et quand tu les vois par milliers le passer sur les rails.
Ce que tu dis, c'est faux. Tu peux pas dire que chaque Bixi enlève une voiture sur la route, ça s'est pas démontré. Là.
Pas 100% parce qu'il y en a qui prenaient l'autobus.
Oui,
c'est vrai.
Oui,
mais il y a beaucoup de gens qui choisissent ce mode de transport-là plutôt que de prendre la voiture. Et ça, c'est une solution pour l'avenir. Mais 12,7, tu dis, OK, je la coupe, ce 12,7 millions-là. On va s'asseoir dans le même conseil, Nathalie, puis moi aussi, je vais te proposer des coupures de 12,7 millions-là.
Oui, oui.
Ça peut pas juste être les coupures de Bixi. Là.
Non, je suis d'accord avec toi.
Il a touché le Bixi.
Non, mais c'est parce que tu as des clubs de hockey qui viennent, OK? Tous les enfants sont là avec des pancartes. Il y a du monde qui pleure là-dedans. Ouvrez l'aréna une heure de plus. Par pitié, ouvrez l'aréna une heure de plus. Mais là, toi, Nathalie Normandeau, tu vas t'asseoir devant et tu vas dire non. Non.
J'ai été mairesse déjà, là, ça m'est arrivé.
T'aurais-tu fait ça?
Ben oui, écoute, on a fermé une route qui menait à un rang, puis c'était terminé. Il y a eu 300 personnes dans la salle. J'ai dit non, c'est terminé, on la ferme, c'est tout. On passe à un autre appel. C'est comme ça la vie.
C'est un choix.
On n'a pas le choix à un moment donné de faire de choix. L'autre chose, quand
tu. Il faut sortir, les amis.
Il faut sortir.
Termine ta phrase. Une phrase.
Non, mais Nathalie.
Vas-y, mon cher.
Le budget, je le dis, en déséquilibre. J'ai parlé tantôt de rééquilibrer un budget avec des moyens forts. Il est en déséquilibre, c'est-à-dire il n'y a pas assez de coupures, puis il n'y a pas assez de coupures de postes, il n'y a pas assez de coupures de budget et il n'y a pas assez de hausse de taxes. Si tu veux, ça ne durera pas, ça. C'est temporaire. L'an prochain, ça va être pire. L'année d'après, ça va être encore pire. Les droits de mutation vont baisser. Les valeurs immobilières vont stagner. Les droits de stationnement, les revenus de stationnement n'augmenteront pas. Donc, la même maudite discussion qu'on a aujourd'hui, on va l'avoir dans un an.
Oui, mais c'est pour ça qu'on aurait souhaité hier que la mairesse nous en dise davantage sur sa vision pour l'année prochaine. Mais aux yeux du public, aux yeux des Montréalais,
une phrase.
Ville n'a rien compris. Aux yeux du grand public.
Voilà.
Montréalais.
C'est sur cette phrase sage qu'on va aller à la pause.
La commission Normando-Ferrandaise.
Hier, on a vu que Justin Trudeau s'est fait chahuter un peu
oui.
à Vancouver. Hein?
Ça a pris 100 policiers
ben oui.
et pour évidemment assurer sa sécurité. Je me suis demandé mais où était la GRC? Où ouais. était la GRC?
C'est la police de Vancouver qui était là. Hier.
Oui, mais ouais. le premier ministre, sa sécurité est assurée par la GRC.
Ouais.
Oui.
Ben, il devait avoir des gardes du corps autour. Mais
ben, gardes du corps, GRC ouais. et tout, là, enfin. Bref.
Mais en tout cas, il s'est fait brasser.
Oui.
Mais c'est un autre exemple que ben, la popularité de Justin Trudeau est peut-être en baisse. Alors, est-ce que l'heure est venue pour lui de quitter ses fonctions?
Ça ressemble à la question qui tue, Louis et Luc, ce matin. On peut dire que l'étau se resserre autour de M. Trudeau. Depuis mai dernier, là, les sondages qui sont publiés un après l'autre confirment un plus grand nombre d'insatisfaits, de Canadiens insatisfaits de son travail. En fait, je dirais que les Canadiens sont las de Justin Trudeau. Il y a de la lassitude dans ce sondage, cet autre sondage qui a été révélé par... C'est un sondage léger qui a été publié par la presse canadienne. En fait, on dit qu'il y a une personne interrogée sur cinq. En fait, elle souhaite qu'il démissionne tout simplement voilà, parce qu'elle est là. Elles sont lassées de lui. C'est un peu normal, j'ai envie de vous dire, parce que là, Justin Trudeau en est à ses huitième année de pouvoir, là. Il est là depuis 2015. Vient un temps où il faut savoir passer le flambeau. Puis il faut accepter que sur le plan politique,
on a fait notre bout.
On a fait notre bout de chemin. Et je pense que Justin Trudeau rendrait un grand service au Canada. S'il le faisait, pourquoi? Parce que les libéraux doivent déployer toute leur énergie pour faire face à la montée de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, vous le savez, vous m'avez souvent entendu sur le sujet. Pierre Poilievre, c'est loin d'être mon favori, mon préféré, mais clairement, le message qu'il martèle jour après jour, semaine après semaine, depuis plusieurs mois déjà, d'accuser Justin ouais. Trudeau d'être responsable de l'inflation, ça colmate dans okay. le...
Donc, toi, tu penses que le Parti libéral est mal armé, si on veut, avec Justin Trudeau pour lutter contre Pierre Poilievre.
Ben clairement. Puis l'autre chose, c'est que joue contre le gouvernement de M. Trudeau, ben le fait que ça fait 8 ans qu'ils sont là, la lassitude du pouvoir, la lassitude de voir le premier ministre faire des choix qui sont contestables aux yeux de bien des Canadiens.
Moi, j'ai fait un rêve hier. J'ai rêvé que...
Moi aussi, mais je te le dirai pas.
J'ai rêvé que Biden puis Trudeau, main dans la main, prenaient le micro puis disaient on s'en va. Parce que c'est la même problématique. Les deux vont faire élire un conservateur pur et dur parce qu'ils ont commis des erreurs ou on est fatigué de leur recette. Puis, parce que Trudeau n'a pas fait de gaffe majeure. Biden n'a pas fait de gaffe majeure non plus. Mais remarquez que tous les présidents premiers ministres à travers le monde sont en baisse à cause de l'inflation. L'inflation inquiète beaucoup les gens puis se demandent que fait notre gouvernement. Et là, Biden vient de perdre 11 points. Là. Donc, Trump, si c'était aujourd'hui, se ferait réélire. Legault aussi a perdu beaucoup. Pourtant, lui non plus n'a pas fait de gaffe majeure, quoique... ouais, bon, en tout cas, peut-être non. Mais toujours est-il que Trudeau, Legault, Biden, mais partout à travers le monde, Macron et compagnie. Deuxièmement, les gens sont de plus en plus informés. Parce que Legault, Trudeau, sa particularité, c'est que c'est un opérateur misérable. Je comprends pas ce gars-là qui est un boxeur, de ne pas être capable de prendre en main les opérations du gouvernement fédéral. Le fédéral, écoutez ça, le directeur parlementaire du budget, nous a annoncé qu'il y a 50 000 fonctionnaires qui ont été embauchés depuis quelques années. Et que ça a fait augmenter de 28% le nombre d'employés depuis 2017. Depuis que Trudeau est arrivé, il a augmenté du tiers le nombre d'employés. Et néanmoins, tous les services offerts par le fédéral sont dans le dallo. Que ça soit l'assurance-emploi, l'immigration, les certifications, il y a pas le service sort pas. Les gens ne travaillent pas assez pour leur salaire à Ottawa. Puis Simonac n'est pas capable de régler ça. Puis pendant ce temps-là, il a augmenté la dette en malade. Puis il a augmenté la dette en malade avec l'impression que le taux d'intérêt sera toujours à 2 % puis il a dit aux Canadiens, endettez-vous, achetez-en des maisons, consommez, ça va toujours être à 2 % inquiétez-vous pas.
Ah ouais.
Et là, tout le monde est pogné. Les Canadiens sont pognés, puis le gouvernement du Canada est pogné avec une dette, avec un taux d'intérêt qui transforme la dette en poste de dépense majeure.
Ouais, mais l'argument de Justin Trudeau, il y a quelques mois, c'est de dire, ben, on contrôle notre service de la dette dans les pays du G7.
Parce qu'Harper l'a précédé.
Ouais, ben, enfin, mais n'empêche que ce qui déplaît aux Canadiens dans le sondage qui était fait par les G, c'est la dette, effectivement, c'est l'inflation, puis c'est l'accès au logement. Et dans le cas du logement, c'est intéressant parce que le fédéral ne construit pas des logements. Cette responsabilité responsabilité revient beaucoup aux provinces, aux municipalités, aux villes du Québec. Mais compte tenu de la pression exercée par les provinces à l'endroit d'Ottawa, on a l'impression, on est demeuré sous l'impression que cette ultime responsabilité, elle appartient à Ottawa. Donc, le gouvernement fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau, n'a pas été capable de renverser la vapeur puis de dire, puis de retourner la balle aux provinces.
Mais tu sais, penses-tu vraiment que, je sais pas, moi, un gouvernement conservateur, construirait demain matin des milliers de logements au Canada? Ben non, tu sais, ça arrive
sauf
pas.
Que Poilievre a pris la parole.
Mais, c'est parce que la crise du logement, c'est pas juste au Canada, puis c'est pas juste au Québec, c'est partout.
C'est partout.
La crise du logement.
En France,
là,
entre autres.
En France, aux États-Unis.
Oui, tout à fait.
Oui, mais on est le pays qui reçoit le plus d'immigrants, puis pas à peu près. Là. Trudeau, là, son affaire de 500 000 immigrants par année, puis Miller qui dit.
C'est une folie.
Il n'y a aucun problème. Les nouveaux immigrants vont construire des logements, mais y a-t-il avec des égouines, les autres? C'est quoi? Ils ont des égouines dans les bagages. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a 6 % seulement de la main-d'œuvre en construction qui est immigrante, qui est issue de l'immigration. Fait que, cette idée-là de dire, d'abord, de lever le nez, là, puis de ne pas voir la crise du logement pendant des années, parce que tu dis, ils n'ont pas de solution à la crise du logement. Ils pouvaient au moins ne pas l'empirer.
Alors, je comprends.
Le rôle de Pierre Poilievre, Luc, Louis, là, ce n'est pas de faire des propositions en ce moment-ci. Là. Lui, il va se garder des munitions pour la campagne électorale. Là, il joue son rôle de chef de l'opposition officielle. Il dénonce ce qui ne convient pas à ses yeux, puis il essaie de dessiner, tu sais, vraiment, il dépeint son adversaire qui est Justin Trudeau en disant, c'est le premier ministre le plus dépensier de l'histoire du pays, il a réussi ce coup-là. Par contre, dans les sondages, au Québec, les Québécois résistent à l'attrait
On prouve qu'on existe,
mais que suscite Poilievre à l'extérieur du Québec. Puis les provinces atlantiques également.
Nathalie,
c'est intéressant. Québec, province atlantique.
L'Ontario plus l'Ouest. Il va gagner, Poilievre.
Oui, non, je suis d'accord avec toi, Luc. Sauf qu'au Québec, là, on résiste. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle pour le Bloc québécois.
OK, mais là, j'ai une question à poser à la libérale,
Antoine.
Oui. Mais vite, parce qu'il y a des accointances.
Est-ce que Trudeau pourrait sortir du leadership puis laisser un autre libéral se présenter comme premier ministre?
Dans un monde idéal, c'est ce que je souhaiterais. Mais malheureusement, je ne crois pas que ce scénario va arriver.
Merci beaucoup. À demain.
C'est 23.